La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Homero Marongiou-Peria, auteur du livre « En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans ». Bonjour.
Bonjour.
Alors, Homero Marongiou-Peria, vous êtes sociologue et théologien. Vous intervenez régulièrement dans l'émission Islam diffusée chaque dimanche matin sur France 2. Vous êtes également membre du groupe interreligieux national Théologie en dialogue et l'un des initiateurs du forum islamo-chrétien de l'ouest de la France. Dans ce livre, vous rappelez que les clichés et idées reçues sur l'islam et les musulmans foisonnent sur fond d'ignorance et de confusion, où l'on mélange indistinctement le Coran, la charia, les cultures et les civilisations dont l'islam a été le vecteur. C'est un livre que vous avez publié une première fois en 2016, mais vous publiez une version revue et augmentée. Alors vous avez choisi au total 100 idées fausses, c'est beaucoup. Comment est né cet ouvrage? Sur quelles sources vous appuyez-vous pour répondre à ces clichés?
Alors sur la naissance de l'ouvrage, c'est une discussion que j'ai eue avec l'éditeur des éditions de l'Atelier en 2016, qui m'a proposé ce projet un peu fou. Il m'a dit « Homero, je veux faire un livre qui répond à un certain nombre de clichés sur l'islam, et il n'y a que toi qui peux faire ça, parce que tu as une parole très libre, tu es à la fois sociologue, tu as la connaissance théologique. » Ça a rejoint une préoccupation personnelle que j'avais, parce que j'avais déjà l'habitude de répondre à beaucoup de sollicitations de mes proches, de mes amis et des gens qui m'interpellent sur les réseaux sociaux. Et nous sommes partis à l'aventure avec 82 idées reçues sur l'islam. Et l'ouvrage a été épuisé par la suite. Et donc la deuxième édition est revue et enrichie justement pour continuer cette route qu'on a prise en 2016.
Alors, dans vos réponses, vous êtes nuancé, puisque vous répondez au cliché par « c'est faux », mais parfois aussi par l'expression « pas si simple ». Sur l'islam et les musulmans, comme sur tous les sujets, il faut sortir du manichéisme. On ne peut pas toujours répondre de manière binaire.
Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas de dire que toutes les critiques qui sont faites envers les musulmans ou envers la religion musulmane sont fausses, ou elles ne devraient pas être entendues, ou on n'a pas le droit de critiquer la religion. Mon propos n'est pas du tout de ce type-là. Il faut prendre en compte les remarques qui sont faites, les critiques qui sont formulées par rapport à l'islam contemporain, la façon dont les musulmans vivent leur religion aujourd'hui, mais il faut aussi apporter des éléments de connaissance qui permettent aux gens, en tout cas c'est la conviction que j'ai moi profondément, de leur apporter des éclairages en leur disant « ce que vous voyez de la religion aujourd'hui, ce n'est pas toujours si simple, parce que ce n'est pas l'islam, ce n'est pas que le Coran, l'islam ce n'est pas qu'un droit au sens d'un code qui devrait gérer tous les aspects de la vie du musulman, l'islam ce n'est pas que la culture, ce n'est pas qu'une histoire, c'est tout cela à la fois. » Donc il faut pouvoir dépatouiller, si vous me permettez cette expression, les différents aspects de ce que l'on nomme islam et complexifier un peu ce qui apparaît parfois de manière très simpliste.
Homero Marongiou-Peria, vous dites quelque chose d'important dans l'introduction, c'est qu'on ne peut pas réduire l'islam à une entité uniforme. La religion musulmane est une religion vivante, implantée sur tous les continents, et donc il faut toujours tenir compte du contexte géographique et culturel.
L'islam s'est répandu sur une longue période dans différentes aires géographiques. Grosso modo, aujourd'hui, ce que l'on appelle le monde musulman, moi je préfère l'expression pays d'islam, pays où la majorité de la population est musulmane, couvre une aire géographique qui va du Maroc jusque la Chine. Et si on prend les minorités musulmanes, il y en a sur toute la planète. Donc vous imaginez bien que les cultures sont très différentes, que les pratiques des musulmans sont très différentes, que les vêtements des musulmans sont très différents. Et nous, en France, on voit l'islam surtout par le prisme du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. C'est dû à notre histoire. Si on traverse la Manche et on va au Royaume-Uni, on va découvrir d'autres musulmans qui sont du sous-continent indien, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes pratiques religieuses que ce que l'on voit ici en France. C'est cela la complexité de l'islam aujourd'hui, et c'est ça que je voudrais introduire moi dans les discussions pour que les gens puissent débattre, mais avec des informations un peu plus précises que ce qu'ils ont habituellement.
Alors, Omaro Marongiou Peria, je me rappelle un célèbre philosophe français égrenant un certain nombre d'affirmations négatives sur l'islam parce qu'il avait lu tel ou tel verset du Coran. On entend parfois des propos péremptoires qui s'appuient sur des textes mais qui ignorent le contexte. Comment répondre de manière argumentée à quelqu'un qui croit savoir en s'appuyant justement sur un texte ?
C'est une critique que j'entends. Je la prends en tant que telle et j'essaye d'apporter un certain nombre d'éclairages, notamment les suivants. Alors tout d'abord, une religion ne se résume pas à un texte. La plupart des musulmans ne connaissent pas le Coran. C'est un fait pour une raison très simple, c'est que 80% des musulmans sont non-arabes, donc ils n'ont pas directement accès au texte originel. La plupart des musulmans on en fait l'expérience aujourd'hui, hein, quand on les côtoie, ne connaissent quasiment pas le Coran. Donc ça, c'est déjà un premier fait. Donc dire que tout musulman appliquerait le Coran à la lettre ou serait un fin connaisseur du Coran, déjà c'est faux. Deuxièmement, tous les textes religieux ont un contenu en partie violent. C'est le cas de la Bible, et plus précisément l'Ancien Testament, mais également certains passage du Nouveau Testament, c'est le cas également pour le Coran. De tout temps, les théologiens ont contextualisé cette part de violence en disant qu'elle était relative à des situations qui étaient extrêmes. Un intellectuel ou un philosophe, quel qu'il soit, qui prend des textes de façon brute, et je vais vous donner un exemple très simple, « Qu'un sang impur abreuve nos sillons », c'est un passage de notre hymne national, que nous chantons avec fierté, mais si je découpe juste cette phrase, je pourrais dire que les Français sont complètement fous de réciter cette phrase devant un drapeau. Or, si on contextualise la Marseillaise, on voit bien que c'est un texte qui a une haute portée historique et symbolique. C'est la même chose pour ces passages du Coran qui sont complètement relativisés par les théologiens musulmans, au profit, bien entendu, de la dimension plus universelle du texte sacré. C'est cela la complexité lorsque l'on aborde un texte religieux, sinon on devient complètement caricatural et on fait des musulmans des espèces de monstres qui n'auraient pour but que de porter atteinte à leur environnement. Or, on voit bien que ce n'est pas du tout le cas.
Omaro Marongiou Peria, nous allons aborder ensemble quelques-unes de ces idées fausses auxquelles vous répondez dans ce livre de manière sourcée et argumentée. Première idée fausse, selon vous, prétendre que l'absence de clergé dans l'islam est un problème, vous rappelez qu'il existe des autorités religieuses et que n'importe qui ne peut pas se prétendre théologien.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une situation que nous vivons dans notre contexte spécifique français, où du fait de la laïcité, donc l'État n'interfère pas de manière directe dans le fonctionnement des institutions religieuses. Donc il est vrai qu'en France, il est très simple pour un individu de se proclamer savant de l'islam, imam, théologien, etc. Mais dans les pays d'islam, ce n'est pas le cas, car il existe des clergés. C'est une réalité. J'entends par là des corps de savants qui font des cursus bien fléchés avec des ministères du culte qui ont une prérogative dans le contrôle du fonctionnement des lieux de culte, dans le contrôle de la personnalité et du cursus des référents religieux, et cela est le cas dans la quasi-totalité des pays d'islam. Donc n'importe qui ne peut pas se proclamer imam et dire tout et n'importe quoi dans une mosquée. Alors bien entendu, le pendant de cela qui est un peu négatif, c'est un contrôle parfois un peu totalitaire, voire même carrément totalitaire dans certains pays, c'est-à-dire un contrôle total sur les institutions religieuses et l'absence de liberté de parole de la part de des référents religieux ou des imams. Mais d'un autre côté, l'islam n'est pas cette religion où n'importe qui pourrait se proclamer comme autorité religieuse ou comme imam. Ce n'est absolument pas le cas.
Homero Maronjou Perrien, parmi les critiques qu'on entend parfois, il y a celle-ci, l'islam serait une religion impossible à réformer, affirmation fausse, selon vous, qui ne tient pas compte de la vérité historique.
Oui, tout à fait, parce que l'islam est le produit, en grande partie, d'une histoire. Les musulmans, aujourd'hui, ne connaissent même pas, pour la plupart, la richesse de l'histoire de l'islam. Alors, si on résume l'islam à une religion centrée sur le culte et les musulmans à des gens qui vont à la mosquée, là encore, c'est une vision caricaturale. L'islam est beaucoup plus que cela. Nous avons eu tout un champ de sciences profanes qui ont été développées par les musulmans tout au long du Moyen-Âge. Je pense aux mathématiques, à la médecine, à l'astronomie, etc., à la philosophie également, c'est tout cela également l'islam. Et quand on parle de réforme, on fait référence de manière plus précise à un mouvement qui a pris naissance au cours du 19e siècle et qui va s'affirmer tout au long du 20e siècle, d'intellectuels et de théologiens qui ont voulu rompre de manière définitive avec une partie du patrimoine exégétique et du patrimoine canonique du Moyen-Âge, car ils considéraient que notre époque est différente et il faut maintenant produire une pensée qui soit plus en phase avec les défis de la modernité. Alors bien entendu, à l'époque, les pays musulmans étaient colonisés pour une bonne partie d'entre eux, et il y avait ce qu'on appelle une espèce de sclérose de la pensée théologique et de l'exégèse coranique, et ces penseurs ont voulu renouveler cela. Alors, ce serait trop long, bien entendu, d'expliquer tout cela en détail à l'instant, mais il y a toute une tradition qui a traversé les pays du monde arabe et également les pays du monde musulman asiatique, avec un foisonnement littéraire de langue arabe ou dans les langues vernaculaires des pays asiatiques. On ne les connaît pas beaucoup en France parce que beaucoup d'auteurs ont été traduits en anglais, mais aujourd'hui, avec parfois plusieurs dizaines d'années de retard, il y a pas mal d'ouvrages qui commencent à être traduits pour que le grand public puisse avoir accès à cette littérature réformiste musulmane. Donc là, j'essaye, moi, d'apporter des éclairages justement sur cette pensée qui est assez foisonnante dans le monde musulman aujourd'hui.
Homero Maronjou Perrien, vous consacrez un chapitre entier à la question des rapports entre les hommes et les femmes. C'est un sujet aussi qui suscite beaucoup d'idées fausses, dites-vous.
Alors, il y a des critiques tout à fait fondées sur la situation des femmes dans les pays du monde arabe, par exemple, sur le fait qu'il existe encore dans un certain nombre de pays d'islam un droit coutumier qui se superpose au droit positif et qui souvent déprécie les femmes par rapport aux hommes. Il y a encore des disparités, par exemple, en matière d'héritage entre les frères et les sœurs, etc. Moi, je ne remets pas en cause cette situation qui est un fait avéré, mais il y a parfois tout un ensemble de clichés qui sont plaqués. Le simple fait, par exemple, de voir une femme qui porte un voile et de considérer que c'est forcément une femme battue ou une femme qui est soumise à un dictat patriarcal, ou de penser que toute femme musulmane est sous la tutelle de sa famille, puis de son mari, et tout au long de sa vie, elle ne pourra jamais vivre en tant que femme épanouie. Donc moi, j'essaye de prendre ces idées-là et de voir concrètement comment on peut y répondre en donnant des éclairages d'abord sur le texte coranique, qui n'est pas un texte aussi vindicatif à l'encontre des femmes tel qu'on le présente parfois dans les médias. Il faut également donner des éléments historiques. Par exemple, le Coran parle à plusieurs reprises de femmes qui s'expriment au sein de la société arabe de son époque, qui sont des actrices au sein de la société arabe de son époque. Donc il restitue un arrière-fond où il y avait de véritables rapports de genre et où les femmes avaient un accès à la place publique, si je peux l'exprimer dans nos termes contemporains. Et il faut également restituer la richesse du patrimoine exégétique et canonique, juridique musulman, avec tout un ensemble de savants, de théologiens qui, au Moyen-Âge, avaient pensé les rapports de genre d'une façon beaucoup plus évoluée que ce que l'on peut en croire aujourd'hui. Et bien entendu, j'invite tout le temps les gens à regarder la réalité des musulmans et des musulmanes autour d'eux et de voir que ils sont aussi différents que tout citoyen français dans les différences que nous voyons en termes d'habits, en termes de culture, en termes de mode de vie. C'est ça aussi la diversité de l'islam.
Dernière question, Homero Marangiou-Peria, vous êtes musulman vous-même. C'est un ouvrage qui s'adresse aussi bien aux non-musulmans qu'aux musulmans.
C'est un ouvrage grand public. La première édition a été reçue avec beaucoup de critiques positives par mes amis, par les gens de mon entourage, par les gens que je côtoie au quotidien, parce que ils ont vu un ouvrage très pratique, et même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec les éléments que je présente sur certaines questions, ils saluent le fait qu'à chaque fois, je donne des clés de lecture qui permettent la discussion. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, le livre donne à chaque fois des clés de lecture, il donne des renseignements précis, il donne des chiffres, il explique des versets du Coran, pour que les gens puissent discuter à partir d'une base et pas à partir de représentations qu'ils ont dans leur tête et qu'ils ne peuvent pas justifier. C'est ça l'intérêt du bouquin qui a été salué. C'est pour ça que j'espère que cette deuxième édition pourra avoir aussi sa petite vie et répondre aux attentes d'un large public.
Merci Homero Marangiou-Peria d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient. Je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage passionnant, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Merci.
C'était la bibliothèque de Radio-Orient avec Loïc Barrière.